Et Carole Martinez, on se retrouve dans une dizaine de minutes, le temps de retrouver Marie Sorbier pour Affaires en cours. Bonjour Marie.
Bonjour.
La semaine dernière, à l'occasion du 30e anniversaire de la saga, une grande rétrospective Largo Winch a ouvert ses portes à la Cité de l'économie à Paris.
Oui, alors bien sûr, il s'agit de mettre en valeur le talent narratif de Jean Van Hamme et Philippe Franck, dessinateur historique de cette bande dessinée. Mais l'angle n'est pas seulement hagiographique, l'exposition explore aussi les liens entre le multimilliardaire et les grands thèmes de l'économie. Alors, Olivier Lecomte, bonsoir, vous êtes professeur de finance à l'école centrale de Paris. Diriez-vous, comme Philippe Franck, que Largo Winch est le Che Guevara du capitalisme humaniste ?
C'est pas évident de répondre à cette question, parce que surtout au début de la série, il donne plutôt l'impression d'être un dilettante qui a hérité donc d'une très grande fortune et qui laisse d'autres gérer à sa place, sauf évidemment lorsque il y a des complots, des cabales pour s'emparer du pouvoir. Mais il vit sa vie géré d'un côté et puis le groupe vit sa vie de l'autre. Moi, je le comparerais plutôt à ces personnages de cette série qui a eu beaucoup de succès dans les années 70 en France, qui étaient... Le titre original, c'était « The Persuaders », et en français, c'était « Amicalement vôtre ». Et on y verrait plus le personnage de Lord Sinclair ou de son complice, hein, donc tous les deux milliardaires qui s'adonnent à des croisades de temps en temps pour essayer de régler des situations de complot. Mais on n'a pas l'impression, en tout cas au début de la série, que Largo Winch est investi d'un projet de transformation de la société ou du monde, comme pourrait l'être aujourd'hui justement un Bill Gates, hein, avec sa fondation qui a vraiment une très grande ambition, notamment donc dans les pays pauvres, et qui agit pour essayer de transformer la société. D'autant plus que on a aussi le sentiment que Largo Winch est plutôt souvent en réaction, hein, face à justement à des événements, à des attaques, que dans une démarche plutôt proactive avec une stratégie et une idée du monde qu'il souhaiterait réaliser derrière.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une évolution du personnage tout le long de la série ?
Oui, certainement, et on voit en effet monter peut-être un peu plus ce qu'on appellerait aujourd'hui les préoccupations sociales. Au départ, on est finalement dans les années Clinton, hein, c'est-à-dire c'est un milliardaire sympathique qui a effectivement donc des idées humanistes pour ce qui le concerne, mais qui baigne dans cet univers donc de financiarisation de l'économie. Hein. On est à une époque où finalement on passe de l'ingénierie manufacturière, j'allais dire, qui apportait le monde du 19e siècle jusque cette fin de 20e siècle, et qui se transforme donc en ingénierie financière et juridique, hein, comment on prend le contrôle d'une entreprise, comment on fait circuler des capitaux dans le monde, comment on fait de l'optimisation fiscale. Donc c'est toute cette ingénierie qui a effectivement attiré d'ailleurs énormément de compétences, avec aussi des rémunérations extrêmement élevées, et qui d'ailleurs a fait place, j'allais dire, aujourd'hui à une ingénierie de la donnée. Donc pour moi, il est effectivement au départ de la série plutôt vraiment l'archétype d'une forme de capitalisme qui prend une nouvelle forme et dont lui bénéficie parce qu'il en a hérité, et il met ça de temps en temps effectivement au service du bien tel qu'il voit, c'est-à-dire quand même d'une certaine façon la défense de ses intérêts.
Alors la série a souvent été louée pour sa capacité à vulgariser l'économie. Alors quand on est lecteur de cette BD, est-ce qu'on peut comprendre par exemple ce qu'est une OPA ?
Alors, je ne sais pas si on comprend techniquement comment fonctionne une OPA. C'est pas un cours de finance, c'est pas un cours de droit, mais je trouve que la série permet d'avoir une idée de comment fonctionne justement ce capitalisme moderne, hein, donc qu'on connaît depuis les années 80, c'est-à-dire cette ingénierie du capital, cette ingénierie du droit, comment finalement la bataille, alors c'est vrai que Largo Winch paie aussi souvent de sa personne, un peu à la manière de James Bond dans les épisodes, mais on a souvent en arrière-plan une bataille juridique pour le contrôle du groupe avec des arcanes fiscales, judiciaires. Donc on comprend effectivement à travers ça, en gros, ce qu'est le métier d'une banque d'affaires et des avocats d'affaires aujourd'hui. Donc sans forcément comprendre le détail, on se rend compte effectivement que le savoir, finalement, il est de ce côté-là. Il est dans la manière dont on gère les capitaux, la manière dont on utilise le droit, j'allais dire, pour servir ses propres intérêts.
Marie, cette exposition, c'est une sorte de reconnaissance quand même pour Largo Winch, vendu quand même à 12 millions d'exemplaires en français, traduit dans 20 langues et qui atterrit dans un musée.
Exactement. Et alors, justement, cet angle économique nous fait se poser cette question, alors peut-être un peu simpliste, Olivier Lecomte, mais Largo Winch est-il, selon vous, un bon patron ?
Bah, moi, je dirais qu'il est assez peu patron finalement, parce qu'il est peu présent dans les affaires régulières de son groupe. Je trouve qu'il convoie une idée effectivement plutôt généreuse, mais encore une fois, on ne l'a pas vu décider de, je sais pas, de vendre par exemple la totalité de son groupe pour récupérer une fortune monétaire qu'il aurait investie dans, comme Bill Gates, dans des fondations pour transformer le monde. Donc, et on voit encore moins gérer l'entreprise au quotidien, établir une stratégie, changer d'un secteur à l'autre. Donc, j'aurais du mal à dire que, enfin, à définir Largo Winch comme véritablement un patron. Si j'étais un peu ironique, je dirais que Largo Winch, ce serait un Arnaud Lagardère qui a réussi en quelque sorte.
Quelles sont les grandes théories alors économiques que l'on peut retrouver dans cette série?
Ben, ce qu'on voit vraiment à l'œuvre, hein, c'est donc ce capitalisme financier qui est né avec Reagan, en gros, mais qui a continué aussi largement sous Clinton et après. C'est-à-dire, finalement, c'est celui qui détient le capital qui véritablement prend les décisions et prend des décisions à une échelle planétaire. Donc, on quitte finalement le domestique, hein, ce qui se passait à l'intérieur d'un État pour se positionner à l'échelle d'un continent ou carrément du monde. Et donc, en cela, oui, effectivement, c'est assez représentatif. On a aussi, d'ailleurs, à travers la série, justement, un goût de ce que peut être l'optimisation fiscale, hein. On voit bien, d'ailleurs, que lui-même hérite de ses parts à travers une fondation, basée dans un paradis fiscal. Enfin bon, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut mesurer ou ce dont on peut prendre conscience à travers la série. On peut aussi dire, d'ailleurs, ce qui est assez frappant, au début de la série, on dit que Winch hérite donc d'une fortune de 10 milliards de dollars, hein, c'est le chiffre qui est souvent cité et qui est présenté donc comme la plus grosse fortune des États-Unis ou du monde. Et je me suis amusé à comparer toutes choses égales par ailleurs, hein, en tenant compte de l'inflation, etc. Comment se comparerait la fortune de Largo Winch de l'époque avec les fortunes aujourd'hui de gens comme Jeff Bezos, Bill Gates, etc. On arrive à la conclusion que Jeff Bezos, c'est 5 fois plus riche que ne l'est Largo Winch dans la série. Bill Gates, les 3 fois et demi. Zuckerberg, les 3 fois. Donc, vous voyez que on voit justement à travers ça que ce mouvement de concentration des richesses a justement fait son œuvre et qu'aujourd'hui, quelqu'un donc qui pourrait être comparé à Largo Winch se retrouve 5 fois plus riche que ne l'était Largo Winch dans la série. Je me suis amusé à comparer aussi les capitalisations boursières, quelles étaient les plus grosses entreprises cotées à New York à l'époque. Et à l'époque, c'était Philip Morris, Exxon, General Electric. Des boîtes qui étaient dans le pétrole, dans les General Electric, c'est l'ingénierie. Bon. Et aujourd'hui, c'est évidemment les premières, c'est Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet et Facebook. Les 5 premières capitalisations boursières aux États-Unis. Donc on est là aussi, on voit la transformation du monde finalement. Hein. On passe d'un monde où les grandes entreprises étaient des entreprises qui avaient des activités physiques, hein, General Electric, je n'ai pas cité, il y avait AT&T, donc dans les télécommunications, il y avait Coca-Cola, etc., à des entreprises qui sont finalement entièrement numériques, qui ne produisent rien. Enfin, si Apple éventuellement fabrique des iPhones, mais les autres sont beaucoup des entreprises qui font leur fortune de la donnée. Un Apple aujourd'hui est 8 fois plus gros que ne l'était la plus grosse capitalisation boursière en 1992. Donc on voit que les gros sont devenus encore plus gros et pèsent encore plus, évidemment, non seulement sur l'économique, mais aussi sur le politique.
L'exposition Largo Winch, aventurier de l'économie, est à voir à la Cité de l'économie à Paris jusqu'au 10 février 2021. Merci beaucoup, Olivier Lecomte.
Et merci à vous, Marie. On se retrouve demain.